Une vie, une œuvre, merci d'être avec nous tout au long de ce week-end de japonais sur France Culture avec, en ce qui nous concerne, une émission consacrée au cinéaste Yasujirō Ozu, 1903-1963. La plupart des cinéphiles s'accordent à placer très haut Yasujirō Ozu dans la hiérarchie des réalisateurs du XXe siècle et il a d'ailleurs connu un grand succès de son vivant en Asie. Comment ne pas s'étonner alors que ce ne soit qu'en 1978 que pour la première fois, on ait pu découvrir en France l'un de ses films, en l'occurrence Voyage à Tokyo, pourtant tourné 25 années auparavant. Suivront au compte-gouttes la projection chez nous de Ghost de Tokyo et surtout du goût du saké, qui va faire grandir petit à petit une réputation décidément très méritée de grand maître, et en 2005, on en découvrait encore. Ozu, c'est donc une œuvre prolifique, et pourtant ses carnets, publiés jadis aux éditions Alive, nous font découvrir un nihiliste qui se disait paresseux, avouant à son journal « J'ai beau me dire à moi-même, écris un mélodrame, c'est comme si je parlais à un autre ». Vie étrange que celle de cet homme qui ne saura jamais quitter sa mère, sera d'une maniaquerie déraisonnable, boira beaucoup trop et ne pourra dormir la nuit qu'à l'aide d'un ou deux somnifères pour calmer ses angoisses. C'est de cet artiste très japonais, et dont les films peuvent pourtant prétendre à l'universel, comme le disait Wim Wenders, que nous parle aujourd'hui Michel Pomared, dans une émission réalisée par Jean-Claude Loiseau.
Ozu, le peintre de la condition humaine.
Je vais vous faire, pardonnez-moi, presque la caricature d'un film d'Ozu. Vous commencez par une série de plans qui vous montrent une place d'une ville, puis la façade d'un immeuble, puis une cour. On est là dans la présentation d'un climat, d'un espace, d'une atmosphère, pas désigné comme tel. On ne vous montre pas la maison précisément où, on vous montre la globalité de l'ensemble des maisons ou de l'ensemble de l'espace, etc. Vous rentrez en situation...
L'écrivain Jean-Marie Touratier.
Arrive ensuite une scène où des personnages, je vais prendre l'exemple évidemment le plus flagrant pour moi, des personnages sont assis. Ils sont assis autour d'une table. Alors jamais face à face, légèrement en quinconce, ce qui permet évidemment à la caméra de pouvoir se déplacer. Ces personnages parlent. Dans un film entre guillemets traditionnel, je vous filme. En plan, et la caméra va me filmer en contre-champ. Bon, le champ contre-champ classique. Si on n'est pas d'accord, on peut prendre un plan plus large, latéral, de côté, de dos, de face, etc., pour montrer un ensemble. Ozu, bien entendu, va faire comme ça, mais vous allez voir infiniment autrement. Donc, je reprends. Deux personnages qui sont pas tout à fait face à face, mais en quinconce. Très bien. Bon. Il va prendre le visage de l'un, puis le visage de l'autre. Bon. Et puis, il va prendre une vue latérale. Où vous êtes, vous, à droite, moi à gauche, par exemple. La vue suivante, vous serez à gauche et moi à droite. Ce qui, en théorie, est absolument aberrant et nous perturbe complètement. Sauf que dans ce cas-là, rien ne nous perturbe. Pourquoi ? Parce que ce que Ozu va chercher, ça n'est pas le fonctionnement de l'espace, mais l'émotion. Elle n'est pas toujours frontale, c'est pas toujours l'acteur en gros plan, avec un petit peu d'émotion, de tremblement autour de l'œil, par exemple. Ça peut être le dos, ça peut être trois quarts dos, ça peut être de profil. Et à chaque fois, comme le dialogue a esquissé quelque chose de douloureux, de difficile, nous sentons monter une émotion. Et lorsque l'émotion est au sommet, on voit tout d'un coup un espace vide, un paysage, un morceau de cour, un morceau de rue, etc. Et là, vous avez une sorte de sommet, d'acmé de l'émotion, si vous voulez.
Je dis toujours que je suis comme un fabricant de tofu qui ne fait que du tofu. Une même personne ne peut pas créer des films si différents les uns des autres. D'ailleurs, on ne mange pas correctement dans un grand restaurant où on trouve de tout. Même s'ils apparaissent identiques aux yeux des autres, mes films expriment tous des choses différentes. Et j'y trouve un intérêt toujours renouvelé. Exactement comme un peintre qui s'évertue à toujours dessiner la même rose.
Plus j'ai cherché à me documenter sur Ozu, plus je me suis rendu compte que c'était une vie incroyable.
L'écrivain Marc Potrel prépare un roman sur le cinéaste.
Il a 20 ans, il vient de rentrer dans les studios. Alors il rêve de faire du cinéma. C'est son grand rêve, avec une scène initiale qui est à 10 ou 12 ans. Son oncle qui l'emmène, on est en 1920 à peine, qui l'emmène de voir un film, muet évidemment, avec le commentateur, le Benchi, qui commente le film. Et Ozu est totalement scotché. Et là, il va vouloir faire ça. Il va avoir plein de problèmes, il se fait exclure de son école, son père qui est un petit industriel veut à tout prix qu'il fasse une école de commerce comme a fait son grand frère, il manque l'examen, etc. Et un jour, le fameux oncle qui l'a emmené voir le film lui dit, il y a le cinéma japonais qui se lance, on est dans les années 20, il y a un studio qui s'appelle la Shushiku qui commence et tu peux entrer, il le pistonne pour entrer dans les studios de la Shushiku le 1er août 1923, ce qui est un mois jour pour jour avant le 1er septembre 1923, jour du grand tremblement de terre de Tokyo.
Lundi 15 mai 1933. Test du cinéma sonore de Mohara ce soir. Nuit blanche. Le purisme, ça se défend dans le domaine personnel. Mais pour le reste, accepte donc ce qui est bâtard. Fais des compromis.
Faut rappeler, Basile de Gonis, qu'à l'époque, les films sont muets.
Oui. En fait, le parlant démarre aux États-Unis en Europe après 1929. Et au Japon, c'est 31 plutôt, mais Ozu, son premier film parlant, ce sera en 36. C'est aussi une époque où on faisait 3-4 films par an, hein, surtout avec le système des studios. Donc il y a plus de films muets que de parlants dans l'œuvre d'Ozu.
7 mai 1934. Montage le jour, montage la nuit, Porto et Crackers. 8 mai 1934. Le jour, montage, la nuit, montage, 5 bouteilles vides.
54 films, on en a 30 qui sont restés, il y en a 17 qui sont perdus. Il y a des titres incroyablement plus parlants, plus évocateurs que Le goût du saké ou Printemps tardif. Il y a Un corps magnifique, Femme d'une nuit, Eros, esprit vengeur, Le printemps vient des femmes. Qu'est-ce que ça racontait ? Ça racontait des films de passion, avec du mouvement, des travelling, tout ce qu'on voit plus chez Ozu après.
Pour comprendre un peu aussi, c'est la différence entre les titres des premiers films et ceux de la période postérieure, il faut garder à l'esprit aussi que le réalisateur, dans l'optique des studios, était vraiment considéré comme un technicien. C'était vraiment comme dans le système hollywoodien. Donc tout était des films de commande et le réalisateur technicien donc était un peu le chef d'orchestre qui mettait tout ça en mouvement. Mais pour vraiment acquérir un statut d'artiste à part entière et d'auteur, entre guillemets, même si c'est une notion qui n'avait pas vraiment cours au Japon jusqu'à très tardivement, il fallait vraiment faire ses preuves. Et Ozu, en fait, c'est que dans les années, à la fin des années 30 et 40, qu'il a vraiment acquis ce statut. Donc tous les premiers films d'Ozu, c'est aussi d'ailleurs une façon de permettre aux réalisateurs de s'essayer à différents registres, différents styles. C'est aussi un apprentissage pour eux. Donc on leur confiait des tas de films de différents genres. Donc on peut s'imaginer très facilement que voilà, il devait y avoir un peu des films de KPDP, des films d'action. On a conservé quelques films un peu de voyous, gangsters, etc. d'Ozu. Il y avait aussi ce qu'on appelait les nonsensical comedies, les espèces de comédies absurdes à la Lubitsch. Et du coup, Ozu s'est essayé vraiment à tout un tas de registres avant de se cerner aussi lui-même.
Et il y a par exemple une anecdote, c'est qu'au début, quand il commence à la Shushiku, c'est lui qui porte les énormes caméras sur l'épaule. C'est des caméras sur trépied, et c'est lui qu'on charge de les transporter. Il est un petit peu plus déménageur que cinéaste. Et bon, très vite, il devient réalisateur. Mais donc, on a un grand bonhomme, pas une tête d'esthète. Il y a une photo d'ailleurs assez étonnante de Ozu et de Mizoguchi qui sont côte à côte. Et elle est très belle parce qu'il y a Mizoguchi qui est toujours un petit peu très, très retenu, très, un peu fin. Et puis à côté, il y a le grand Ozu. Et on a l'impression qu'Ozu vient de sortir une blague et qui est très content de son effet. Et Mizoguchi, lui, c'est une image étonnante, tout comme est assez étonnante l'amitié entre entre les deux. Il y avait aussi une grande amitié avec Kurosawa. Et ensuite, il a connu aussi Imamura et Oshima.
Dimanche 1er janvier 1939. J'entre dans ma troisième année de guerre. Cérémonie en grand uniforme sur la place du bataillon Morita. Présentation des armes dans les quatre directions. Banquet au retour. J'ai écrit ces quelques mots sur le drapeau en rentrant. Une lame bien affûtée n'a pas peur du burin.
En 37, il est mobilisé et il part en Mandchourie dans les bataillons chimiques, d'armes chimiques. Ce qui est très, très, très inquiétant. Alors à la fin de la guerre, il sera prisonnier, mais il ne sera pas criminel de guerre. Il sera juste prisonnier, il n'est pas du tout... Il n'a pas été mêlé à des choses problématiques avec l'armée japonaise. Il était mobilisé, il était obligé d'être combattant.
Lundi 24 avril 1939. On a été creuser des tranchées sur le plateau nord-ouest. Inspection de tout l'équipement, gourdes, besaces, bâches, sacs à dos, instruments, masques à gaz. À 16h, on a mis l'uniforme et on s'est installé pour essayer les tranchées. Au loin, les fusillades de plus en plus intenses n'ont pas arrêté de la journée. Il paraît que des forces armées ennemies se sont montrées côté sud-ouest de Fengxin.
Marc Potrel, vous vous êtes plongé dans les carnets donc, de Ozu.
Oui, ces carnets qui sont parfois juste des notes presque pour se rappeler ce qu'il a fait de ces journées. Et par exemple, tout le passage sur la guerre est assez impressionnant. Quand il raconte, par exemple, qu'ils font des marches forcées, c'est très dur, ils souffrent beaucoup, et qu'il voit les chevaux pleurer. C'est la première fois qu'il voit des animaux pleurer.
Je n'ai plus envie de tourner des films empreints de scepticisme. D'une certaine manière, j'ai connu la guerre. Et cela m'a donné un esprit d'affirmation.
Il faut savoir que ces carnets, il y en a beaucoup qui ont disparu dans les incendies, parce que Ozu est un petit peu poursuivi par les incendies aussi. Là encore, c'est très romanesque. L'incendie de son quartier, donc, lors du grand tremblement de terre 1923, et il y a l'incendie des studios d'Ofuna, et ça, c'est quelque chose qui peine beaucoup Ozu, parce qu'il avait toutes ses collections. C'est un grand collectionneur. Il collectionne, donc il avait déjà ses carnets, il avait toutes ses notes, ses journaux intimes de jeunesse, et il collectionne beaucoup les montres. C'est un peu un flambeur, il est très dans l'univers du cinéma. Il achète beaucoup de montres, de très belles montres suisses, des stylos, des beaux stylos aussi, et il les donne ensuite. Et aussi des porcelaines, enfin, c'était un collectionneur. Et donc, il avait tout ça dans son bureau, dans les studios, et un jour, il prend feu.
24 novembre 1933. Mélodrame, chimère, papier buvard, génie de la mise en scène, réalisme, romantisme, conférence à l'université d'Ouzeda, me voilà converti.
Basile de Ganis, pour vous, quand est-ce que Ozu devient Ozu? Avec quel film?
C'est une question très difficile, parce que ça supposerait aussi que les premiers films, enfin les films qui précéderaient ce moment un peu charnière seraient moins bons ou seraient pas tout à fait du Ozu parce que c'est pas des films de maturité. Et je pense pas que ce soit tout à fait juste parce que vraiment il y a des vrais bijoux dans la période antérieure, donc comme Ghost de Tokyo qui est un vrai bijou, qui est un des derniers films muets donc d'Ozu. Et finalement, même un classique entre guillemets comme Voyage à Tokyo, il y a des travelling. On a tendance à l'oublier, mais il y a une scène donc où les vieux parents sont dans le bus et visitent Tokyo. C'est en tout cas la caméra est peut-être fixe, mais elle est dans le bus, donc concrètement ça fait une espèce de travelling. Et il y a aussi un travelling aussi dans la ville, un moment très léger, d'ailleurs très surprenant sur un plan qui aurait été qualifié de vide parce qu'il n'y a pas de personnage. Et voilà, c'est, ça n'en fait pas un film impur ou moins bon que ceux de la période postérieure. Mais c'est vrai que Ozu progressivement a resserré un petit peu son dispositif et l'a radicalisé de plus en plus.
Ozu fait partie d'une génération qui a découvert le cinéma au Japon avec les films américains. Il a travaillé dans une seule compagnie toute sa vie. Une compagnie où il était, pardonnez-moi, salarié, où il avait les mêmes amis, les mêmes équipes, les mêmes copains, les mêmes réalisateurs. Il parle dans son journal régulièrement des repas très arrosés avec les amis réalisateurs, etc., etc. Donc une situation très particulière où une société comme la sienne, la Soseku, produisait un film par semaine jusqu'en 1941, où la censure leur demande de produire, et puis les raisons économiques, un film par mois. Donc il connaît son équipe parfaitement. C'est toujours les mêmes. Et c'est des copains, j'allais dire. Donc, ces particularités de tournage sont bien connues. On en sourit, on en rigole autour. Ah ben c'est Ozu, etc., etc. Il peut se permettre d'avoir des plaisanteries, des variations de style. Et puis, son goût pour l'humour, pour la plaisanterie, en rajoute beaucoup. Donc, quelquefois, il s'amuse à compliquer la chose pour simplifier le résultat.
Personnellement, je suis quelqu'un au goût et au dégoût fortement prononcé. Il est donc inévitable qu'une foule de défauts transparaisse dans mes œuvres. L'un d'eux, par exemple, consiste à abaisser toujours la position de ma caméra. C'est ce qui donne des compositions qui ont toujours l'air de regarder de bas en haut.
Oui, c'est vrai, mais sa caméra a du sol. Il n'a pas inventé, contrairement à ce qu'on dit. C'est une technique qui a été inventée pour faire des films pour enfants. Vous savez qu'au Japon, on faisait beaucoup de films de genre. Donc il y avait des films, évidemment, de samouraï, ça tout le monde le sait, des films d'enfants pour enfants, avec des enfants pour les enfants, et puis d'autres films, etc. Bon, très bien. Bon, évidemment, il y a un petit malin un jour qui a trouvé dans les années 20 l'idée de mettre la caméra basse, parce que ça permettait de filmer les enfants. Ozu a repris. Qu'est-ce qu'on peut dire de particulier? Il a fait fabriquer un pied très bas. Voilà, d'accord, très bien. Donc, beaucoup des séquences sont tournées avec la caméra au ras du sol. Mais pas toutes, et pas tout le temps, et pas toujours. Il le fait lorsque les conditions du plateau, du set, le permettent, c'est-à-dire essentiellement dans les intérieurs. Dès qu'on passe à autre chose, dès qu'on passe en extérieur, dès que les personnages, ça arrive régulièrement, sont dans des pièces, comme on dit, à l'européenne, c'est-à-dire assis sur des chaises avec des tables, comme nous sommes ici par exemple, eh bien la caméra se met en position. Donc c'est une caméra pragmatique.
Il y a eu toutes les interprétations un petit peu culturalistes, anthropologiques. Alors ça, c'était plutôt les Américains qui disaient, oui, comme les Japonais sont assis sur les tatamis, c'est la hauteur, en fait, c'est celle d'un homme qui serait assis sur un tatami. Donc une espèce d'explication culturaliste derrière. Je pense qu'une des choses les plus intéressantes qui a été dite sur la question, c'est ce que dit Yoshida dans son livre « Ozu, l'anticinéma ». Yoshida, donc, qui dit que, en fait, cet angle très bas où, du coup, on capte toujours les personnages en contre-plongée, ça corrobore cette impression un peu dissonante. En fait, en cadrant du bas, il y a une ambiguïté sur le regard de l'acteur ou du personnage. On ne voit pas tout à fait dans quelle direction ou sur quoi se fixe le regard. Donc, cette espèce de flottement du regard, ça contribue à cette ambiguïté, c'est-à-dire que le personnage est à la fois dans sa logique fictionnelle et dans une représentation, et à la fois tout cet édifice est un peu mis à mal, en fait. Donc je pense que Ozu, vu son ironie et son esthétique dissonante et très radicale, je pense que c'était plus pour trouver un angle qui rompe la fausse convention, disons, naturaliste ou la fluidité instaurée par des conventions partagées par la plupart des cinéastes. Je pense que c'est plus des dispositifs d'éveil et de mise en vigilance que des motivations, je sais pas, anthropologiques ou autres.
Mes règles de vie sont simples. Pour les choses qui n'en valent pas la peine, suivre la mode. Pour les choses importantes, suivre la morale. Pour l'art, ne suivre que soi.
En général, le plan d'Ozu est composé avec un avant-plan, un premier plan, fait d'objets posés, qu'on ne voit pas, j'allais dire, qu'on ne regarde pas parce qu'on se focalise en bon spectateur sur la scène ou le personnage, et un fond bouché. L'ouverture entre les panneaux de la maison japonaise donne sur un mur, donne sur la maison en face, donne sur une cour. Bref, l'espace est bouché. Et on l'a souvent remarqué aussi, latéralement, c'est bouché. C'est-à-dire que latéralement, il y a un rideau à droite, un rideau à gauche, il y a un élément en bas, un élément en haut. Donc, c'est complètement obturé. C'est dans cet espace assez dense, hein, même lourd, même chargé, que se joue la scène. Bon. Et cependant, nous n'avons pas l'impression d'un étouffement. On ne sent pas dans une maison étriquée. Alors, deux remarques. Bien entendu, au Japon, les pièces sont petites. Et bien entendu, ça reflète de très près la réalité quotidienne du Japon, que ce soit les maisons anciennes ou les appartements modernes, comme on voit dans les films, bien sûr. Et deuxième remarque, dans cet espace bouché, c'est fait de telle façon que la focalisation soit sur les événements et les personnages. Le reste, c'est un élément de décor. Le plus bel exemple, c'est Bonjour. Bonjour, vous savez que c'est un film que j'aime beaucoup parce qu'il est plein de drôlerie, plein d'humour. Bonjour, c'est un film sur le langage, c'est pas un film simplement comme ça rigolo. Bonjour, c'est l'arrivée de la modernité au Japon. Et là, c'est de petits gamins qui veulent absolument voir la télévision. Bon. On vit dans des bâtiments qui sont à la fois définitifs et provisoires, donc ce genre de petit ensemble de banlieue où les uns sont sur les autres, etc. Évidemment, tout est fermé, tout est clos. Ça joue beaucoup là-dessus, mais ça souffle sur autre chose. Ça souffle sur les éléments du langage, sur les questionnements, sur le silence, sur la parole, etc.
My sister is 3 years younger than I.
なんてことだ。訳してごらん。
私の妹は3歳で、私より若い。
My sister is.
訳すんだよ。
Si notre siècle donnait encore sa place au sacré.S'il devait s'élever un sanctuaire du cinéma, j'y mettrais pour ma part l'œuvre du metteur en scène japonais Yasujiro Ozu.
Tokyo Ga, Wim Wenders, 1985.
Ces films racontent toujours, avec des moyens réduits au minimum, les mêmes histoires simples, des mêmes gens, dans la même ville, Tokyo.
En fait, la meilleure façon de voir le film de Ozu,
Toshiro Kuroda,
c'est de regarder d'abord une dizaine de films de Kurosawa, oncle-le, et vous essayez de bourrer les images de Kurosawa, et vous regardez enfin un film d'Ozu. Voilà. Là, vous sentirez ouf. Vous voyez, dans les films de Kurosawa, dans chaque pan, il y a vraiment une densité de mouvements, vraiment des choses cinématiques. Et qu'il y a plein de saletés, des petits détails de la vie, en quelque sorte, que Ozu a essayé d'expurger de façon consciente et minutieuse. Donc chaque pan des films de Ozu, c'est totalement artificiel.Et il y a plein de symétries que l'esthétisme japonais prohibe, en fait. Hein.
Ce qu'on lit aussi, Basile de Ganis, quand on parle d'Ozu, souvent, c'est esthétique du vide. Et vous, vous dites esthétique du plein.
Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai, on parle souvent de plan vide quand il y a des plans sans personnages. Mais très souvent, quand on voit ce que c'est le plan vide, ça donne un vertige. C'est-à-dire qu'il y a tellement de surabondance, en fait, d'éléments, de lignes, d'angles, d'objets... C'est juste pas du vide, quoi. C'est au contraire une espèce de volonté un peu folle de toujours mettre plus et de toujours faire entrer plus de choses dans le cadre et dans le film. Mais tout ça, c'est un peu... C'est pas juste des querelles de mots, mais le vide et le plein, voilà, c'est un couple notionnel très important... Voilà, qui remonte à la pensée taoïste chinoise. Enfin, je veux dire, il y a tout un soubassement derrière où ce que certains peuvent appeler vide, c'est justement la condition de l'existence de ce plein ou de ce trop-plein. Et pour moi, c'est ça la caractéristique. C'est que cette espèce de dépouillement apparent, en fait, est au service d'une espèce de surabondance des éléments signifiants dans son œuvre.
« 16 avril 1960. Soleil, le vent souffle depuis le matin. Bain, pluie fine, ouverture des matchs de baseball interuniversitaires. Le scénario a avancé un peu. Le soir venu, et bu du Hennessy et croqué du fromage. Un délice. Rien de meilleur dans tout ce que la vie peut nous offrir.
Youssef Ishakpour, l'impermanence chez Ozu, le style de ce cinéaste, c'est quelque chose qui vous a interpellé il y a quelques années de ça, 1994, puisque vous avez écrit ce livre. Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous intéresser à ce cinéaste japonais qui a mis du temps à être connu ici en France ?
Je pense que ce qui m'a beaucoup attiré chez Ozu, à la différence des films de Mizoguchi qui ont, disons, un contenu très riche et très vaste, c'était plutôt une dimension à la fois, disons, raréfiée et à la fois très formalisée. Une sorte de relation entre le style et la nature, si je puis dire, et où le style était prépondérant. Et comme j'ai écrit sur des peintres, sur les peintres en général, on arrive à parler d'un style. À propos de Sina, c'est très difficile de parler d'un style. Or, Ozu, c'est quelqu'un qui a véritablement un style et c'est le style qui prédomine. D'ailleurs, lui-même, il disait qu'il travaillait comme un peintre qui peint toujours des fleurs, un bouquet de fleurs. Et un peintre qui est de nature morte, enfin de bouquet de fleurs, change simplement la disposition des fleurs. Il fait toujours un tableau différent en partant des mêmes choses.
Alors Youssef Ishakpour, le style de Ozu, mais si c'était un peintre, vous le définiriez comment ?
L'équivalent d'un peintre, enfin, c'est difficile d'en trouver, mais je dirais quelqu'un comme Morandi, par exemple, qui lui aussi, il a quelques objets et qu'il travaille surtout sur la lumière, sur la couleur, sur le rapport lumière-couleur-espace. C'est à peu près comme Ozu travaille sur le rapport entre espace-temps. C'est-à-dire qu'il a un travail sur le cadre, essentiellement, qui fait que les cadres qui sont à la fois des coupes dans l'espace et des coupes dans le temps. Et arriver à créer une sorte de rythme à travers ces découpes qui peut-être c'est essentiellement la base du cinéma. Mais disons qu'en général, au cinéma, on raconte des histoires, il y a de l'intrigue, il y a de l'action. Et chez lui, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas d'action. C'est très, très, très menu. Les choses qu'il raconte, et c'est essentiellement sur, disons, la manière où, à travers son style, il donne une résonance émotionnelle à ce qu'il raconte. Et ce qu'il raconte essentiellement, c'est l'impermanence, c'est-à-dire c'est l'idée de fugacité. C'est une forme qui a pour contenu le passage du temps.
Cette chronique qui s'étend sur une quarantaine d'années enregistre la métamorphose de la vie au Japon. Les films d'Ozu parlent du long déclin de la famille japonaise et par là même du déclin d'une identité nationale. Ils le font sans dénoncer ni mépriser le progrès et l'apparition de la culture occidentale ou américaine, mais plutôt en déplorant, avec une nostalgie distancée, la perte qui a lieu simultanément. Aussi japonais soit-il, ces films peuvent prétendre à une compréhension universelle. J'ai pu y reconnaître toutes les familles de tous les pays du monde, ainsi que mes parents, mon frère et moi-même.
Emmanuel Loiseran, vous êtes historien, vous êtes spécialiste de la famille au Japon. Et la famille, c'est, on pourrait dire, le cadre favori de Ozu dans la plupart de ses films. Une famille qu'il passe son temps à déconstruire au moment d'un mariage ou d'un enterrement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la famille traditionnelle au Japon ?
La chose vraiment moderne, c'est la notion de famille traditionnelle. C'est-à-dire qu'à l'ère Meiji, donc à la fin du 19e siècle, les Japonais nous imitant, et donc nous c'est tous les discours contre-révolutionnaires du 19e siècle, tout ce fantasme qui a la vie dure qu'il y aurait eu avant une famille traditionnelle et qui s'est effondrée, C'est un fantasme très post-révolutionnaire. Alors ce fantasme est repris par des idéologues au Japon à la fin du 19e siècle. Et en fait, à cette époque-là, ils inventent littéralement ce qui aurait été une famille traditionnelle japonaise. Et évidemment, d'une part, certains vont déplorer qu'elle se délite, qu'elle se déconstruise, comme vous dites, et puis d'autres vont chercher à la créer. Mais en réalité, je voudrais le dire très fortement, le fantasme, enfin la réalité hein, d'une famille japonaise très structurée, avec un pater familias, une soumission de la femme, des enfants, ça n'a jamais été particulièrement une réalité au Japon. Il me semble que on ne peut pas dire que chez Ozu, il y a une vision du mariage ou de la famille. Il y a pas mal de cas de figure. Donc, par exemple, il y a des cas où les enfants ne veulent pas se marier, les parents veulent qu'ils se marient. D'autres cas où c'est l'inverse, l'enfant veut se marier, ses parents sont contre. Donc, comment dire, quitte à vous provoquer un peu, moi, je pense que pour Ozu, la famille, c'est un cadre pour filmer les relations humaines, les individus. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit le sujet de ces films. Je ne suis pas persuadé que chez Ozu, il y ait un discours sur la famille ou sur le mariage. C'est c'est formidable pour lui pour explorer les êtres humains dans la fragilité de leur existence, mais c'est toujours comme des sentiments assez mélangés, donc c'est jamais une tragédie, jamais un pur bonheur, il y a toujours un mélange de choses très variées. Il prend le temps de les filmer, de les mettre en scène, et je suis pas sûr qu'il vaille chercher chez lui un discours sur par exemple la décomposition de la famille japonaise. Dans d'autres films, où il est plus d'avant-guerre, dans ses comédies d'avant-guerre, il est assez méchant pour la critique sociale. Là, il est assez satirique. Mais dans beaucoup de ses films d'après-guerre, je ne les connais pas tous, mais il me semble qu'il y a un regard assez doux, un peu doux-amer quelquefois, sur les êtres, les situations. Mais je ne crois pas qu'il faille en faire le critique de telle institution. Il y a beaucoup de liberté de chacun de ces personnages.
17 avril 1955. Pluie violente. Correction de la séquence 14, écrite hier après-midi. Bain. Dés de poulet à la pâte blanche de soja cuit dans une poêle chinoise. Écriture des séquences 15 et 16. La pluie s'est arrêtée au crépuscule. Le couple installé dans la chambre d'à côté n'est pas sorti de la journée. Ils sont restés enfermés en tête à tête. Commentaire d'Oyu, la femme de chambre. Ils ne doivent pas être mariés, ces deux-là.
Vous avez une intrigue. L'intrigue, en général, c'est bon si elle a des rebondissements. Évidemment, des coups de théâtre. Bon, autrement dit, du théâtre filmé. On parle et tout d'un coup arrive un événement terrible. Votre femme vous trompe, le cousin meurt, vous avez assassiné quelqu'un. Jamais chez Ozu. À aucun moment, jamais. Bien entendu, tout ça est supprimé pour les gestes du quotidien, l'ordinaire des jours. L'ordinaire des jours, c'est quoi? Eh bien, on vit, on mange, on boit, du saké par exemple, on traverse les pièces, on range le linge, on lave le linge, on dit des choses banales, parce que sous les choses banales, il y a des choses essentielles qu'on n'ose pas avouer. On dit « il fait beau aujourd'hui », mais on pense à « je souffre beaucoup », ou bien « je l'aime », ou bien « je ne l'aime pas ». Bon, voilà, c'est ça le phénomène. Donc c'est l'inversion, comment dire, de l'ordinaire du cinéma.
Mais Jean-Marie Torrentier, comment Ozu, en filmant l'ordinaire de la vie, arrive à ne pas être monotone?
Alors, deux choses. La première chose, c'est ce qu'on dit. On dit, ah, mais ces films se répètent tout le temps. Ah, mais c'est à peu près le même type. D'ailleurs, je ne sais plus très bien ce qui se passe dans tel film parce qu'il se ressemble terriblement à tel autre, etc., etc. On dit, finalement, c'est monotone, bien entendu, puisque, à part l'arrivée du sonore, très tardivement d'ailleurs, c'est la même chose. Non, c'est jamais la même chose. Alors évidemment, ce n'est pas les grands changements. Encore une fois, ce n'est pas des scènes où le pathos se développe, où il y a des phénomènes extraordinaires. C'est des scènes de l'ordinaire. Mais la petite modification, c'est que cette fois-ci, l'accent est mis plutôt sur la souffrance, la mort de quelqu'un, par exemple, ou bien le mariage. Des choses de la vie. On se marie, on meurt. On n'est pas chez Ozu, mais on se marie, on meurt. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on prend sur le quotidien de la vie, et c'est le quotidien de la vie qui fait l'essentiel des modifications, des transformations des choses. Voilà. Donc, ça ne peut pas être répétitif.
Yubenes dum dum,
Pour le couple, par exemple, si on se concentre sur quelques films où il parle du couple, il y en a un que j'aime beaucoup qui est le goût du riz au thé vert, qui est centré sur un couple qui n'a pas d'enfant. Si vous l'avez en tête, et dans ce film-là, on voit un couple qui ne va pas très bien. La femme méprise un peu son mari. À un moment, le mari part en voyage, on ne sait pas trop où il est. Puis il rentre et ils vont se retrouver autour justement de ce riz au thé vert, qui est un plat japonais très simple, très quotidien, un peu vulgaire presque. Et la femme visiblement méprise un peu son mari, qui est pour elle un homme un peu sans ambition. Et puis quand même, ils retrouvent le plaisir de manger ça ensemble. Donc, il y avait une sorte de crise du couple, et puis le couple en même temps s'est reformé autour des choses les plus simples. Donc il y a pas tellement d'histoire, enfin, vous le savez bien, il n'y a pas d'histoire chez Ozu. Il y a des moments, des petits épisodes comme ça, avec une forte présence des gens. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup, la manière dont ils les filment, c'est qu'ils les laissent vivre.
Merci. Bien.
Il y a une scène célèbre où le père rentre dans un bar habillé en livrée noire et la serveuse lui dit il vient de marier sa fille. Et la serveuse lui dit: ah, vous rentrez d'un enterrement. Il dit quelque chose comme ça.
C'est dans Le goût du saké, c'est le dernier film d'Ozu, et c'est vrai, et c'est une des dernières scènes du film, donc c'est vraiment testamentaire là comme phrase et comme mise en équivalence. Là, aucun n'aurait pas remarqué, c'est explicitement dit: mariage égale enterrement. C'est à peu près la même chose.
Le champ de la caméra n'est qu'une petite fenêtre sur le monde. L'amour n'est qu'une petite fenêtre sur la vie. Il faut réfléchir à deux fois avant d'appuyer sur le déclencheur.
Dans la vie d'Ozu, il y a encore et encore les femmes. Le mystère des femmes, puisque Ozu ne se marie pas, n'a pas vraiment de liaison connue.
La blanche écorce de bouleau fait penser au visage badigeonné de blanc des prostituées d'autrefois.
Alors j'ai eu la chance, j'ai été au Japon pour préparer le livre, j'ai eu la chance de rencontrer la traductrice des carnets qui m'a donné quelques informations sur cette mystérieuse absence de vie conjugale.
Marc Potrel.
C'est Josiane Pinon-Kawatake qui a traduit les carnets. Et il semblerait que Ozu, quand même, avait beaucoup d'aventures, mais restait très discret, ne s'est jamais marié, mais a été un petit peu sous l'emprise quand même de sa mère, qui meurt très âgée, un an avant le décès d'Ozu. Alors là encore, une personne étonnante, il y a des photos, j'imagine une femme pas très grande, mais avec un caractère vraiment bien trempé, qui donc a élevé cinq enfants en tout, ce qui a... Trois garçons, deux filles, un grand frère de Ozu qui devient banquier, qui est la fierté de la famille. Ozu ensuite, qui au début est un peu un vaurien, qui a beaucoup de mal à trouver son chemin avant vraiment de se mettre au cinéma. Un troisième frère, Nobuzo, que Ozu aime beaucoup, et puis les deux sœurs. Et ils sont quand même très 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 soudés. Donc, alors, les femmes, il y a Setsuko Hara, bien sûr, auquel la rumeur l'a fiancée. Et on a prêté à Ozu une liaison avec Setsuko Hara, qui a 15 ans de moins que lui. Il y a beaucoup de photos. Alors, c'est l'avantage de travailler sur le cinéma, c'est qu'il y a des photographes de plateau, on a une quantité incroyable de photos. Et c'est vrai que les photos de Setsuko Hara et de Yasushiro Ozu, ils sont très proches. Il y a quelque chose qui est plus qu'une complicité entre le cinéaste et son actrice. Donc, toutes les suppositions sont possibles. Setsuko Hara est toujours vivante. Elle est vénérée comme une très grande actrice. Et elle a arrêté de tourner après le décès d'Ozu.
Mmh.
いつかご自分でお炊きになった時みたいに、お米のご飯毎日召し上がるのよ。
Il y a un couple un peu comme ça, mythique et maudit, qui s'installait dans la filmographie d'Ozu, qui est donc celui du père et de la fille. Et c'est notamment à cause du chef-d'œuvre Printemps tardif, en fait, où donc le père est joué par Ryu Chishu, enfin Chishu Ryu, si on le dit à la française, avec le prénom d'abord, et Hara Setsuko, ou Setsuko Hara, l'actrice qui jouait donc la fille. Dans Printemps tardif. Donc, c'est un couple qui a beaucoup marqué les esprits. Finalement, on les voit pas tant que ça. C'est-à-dire que, bon, Ryu Chishu, lui, on le voit tout le temps parce qu'il apparaît dès les premiers films d'Ozu dans les années 20-30 de la période muette jusqu'au dernier film, Le goût du saké. Donc, lui, c'est vraiment le personnage qui, en plus, a à peu près l'âge d'Ozu à un an près, donc qui aura aussi vieilli avec lui, qui aura été son alter ego à l'écran, vraiment. Et donc Setsuko Hara, qui joue tantôt sa fille, tantôt sa sœur aussi dans d'autres films, ou encore voilà, quelqu'un avec qui il n'est pas lié. Mais moi, ce que je trouve très très fort quand même dans ces histoires d'incarnation chez Ozu, c'est que justement, il y a une importance très grande de l'intertextualité d'un film à l'autre chez Ozu. Par exemple, on les voit d'abord comme père et fille. Ces deux acteurs. Mais déjà, dans leur première apparition, dans Printemps tardif, donc, qui raconte cette, en deux mots, donc, c'est le père veut marier sa fille ne veut pas quitter son père, et donc, pour convaincre sa fille d'accepter le mariage qu'on lui propose, le père fait semblant lui-même de se remarier, parce qu'il était veuf, pour, comme ça, encourager la fille à quitter le foyer familial. Et finalement, une fois que la fille est mariée, le père se délie de ce faux engagement. On peut même parler de tension sexuelle hein, dans la scène, une des scènes du film où justement le père et la fille passent une nuit ensemble. C'est presque une lune de miel que passent le père et la fille dans une auberge à Kyoto. Il y a une vraie tension. D'ailleurs, Yoshida, dans son livre, parle de ce moment-là et de cette ambiguïté-là, justement, entre le corps du personnage et le corps de l'acteur. D'un côté, les corps des personnages racontent l'histoire filiale, donc l'interdit aussi de l'inceste, etc. Mais le corps des comédiens, voilà, toute l'attirance qu'il peut y avoir entre ces deux êtres, elle est là. Et Ozu en tire pleinement parti.
あと5分ほどで到着いたします。ホームは進行方向に向かって左側停車時間は5分間でございます。なお列車の名古屋着は14時4分15分。FA4、定刻開運は本業5時30分。南取島東方海上において。負けました。そうです。負けました。
Daniel Lozeran, vous êtes historien. Qu'est-ce que vous percevez dans les failles ou dans les interstices des films d'Ozu de l'histoire du Japon qui se déroule, militarisme, défaite, occupation américaine. Comment est-ce que c'est saisi? Est-ce que c'est saisi dans les blessures intimes chez les gens, toujours, cette histoire qui n'est pas racontée, qui est restée finalement hors champ?
Ce qui me frappe là juste en vous écoutant, c'est par exemple... dans le plus célèbre voyage à Tokyo, il y a le personnage du fils mort à la guerre. Mais alors c'est pareil, est-ce que... Il me semble que dans d'autres films, on voit dans des bars, tel personnage boit un coup avec un ancien soldat qui se met à raconter des choses. Mais c'est vrai que c'est très largement hors champ. Et pourtant, par exemple, tous ces personnages dans les films des années 50, ils ont dans les 50 ans, ils sont tous cadres, et cadres assez supérieurs, visiblement. Et ils ont plutôt de l'argent, les personnages de beaucoup de films d'Ozu, hein, surtout dans la dernière période. Ce n'est pas des richissimes, mais c'est des gens qui ont profité de la croissance qui reprend après la guerre. Mais c'est vrai que tous ces gens-là ont fait la guerre, en fait, si on regarde leur date. Hein, et c'est tu presque tout le temps. Donc un des rares cas où ça apparaît vraiment, c'est donc dans Le Voyage à Tokyo, parce que y a le portrait du fils mort. Mais est-ce que, comment dire, c'est des douleurs particulières? Oui, c'est bien sûr, donc la guerre a entraîné des douleurs. Elles sont pas niées, elles sont implicites souvent, parfois comme ça, à peine exprimées par quelque chose. Mais je pense pas, c'est un peu la même chose que pour le discours sur la famille, qu'il en fasse un sujet particulier. Je pense que ça n'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment les êtres pris dans... Est-ce que c'est un tragique? C'est même pas un tragique. Dans l'épaisseur du temps, qui est toujours mélangé. Mais peut-être une des choses qui rend le regard des Occidentaux sur les films d'Ozu difficile, c'est que, comme en France, en Occident, on ne connaît pas l'histoire du Japon. On la connaît mal. Et on a tendance à vouloir voir dans le Japon un objet esthétique, toujours. Donc, à tirer les choses vers tel ou tel signe, graphisme. Et les lieux qui filment les personnages dans leur statut social, leur manière de parler, au Japon, portent cette histoire. Donc, ils sont pleins de cette histoire. Ne serait-ce que par leur âge, par leurs vêtements. Donc, c'est pas thématisé, mais ce n'est pas non plus nier cette présence de l'histoire. Donc quand on connaît, pas dire bien le Japon, c'est très prétentieux, mais un petit peu le Japon, qu'on est devenu simplement un peu familier avec le Japon, un des bonheurs de voir le film d'Ozu, c'est d'avoir cette épaisseur. Donc oui, la guerre est un des ingrédients qui ne pèse pas particulièrement, c'est pas très important, c'est pas nié. Mais c'est une donnée parmi d'autres, me semble-t-il.
Juin 1959. Près de l'âtre où pend la marmite, je bois du saké ivre. Dans mon cœur résonne le chant du coucou. Tout près, un coucou réchauffe le cœur du vieil insomniaque.
Toshiro Kuroda, Le goût du saké, c'est le titre du dernier film de Ozu, mais c'est aussi un peu le résumé de la vie du cinéaste contenu dans ses carnets, puisqu'il s'adonne volontiers à cette boisson. Une boisson aussi célébrée par un nombre de ses protagonistes qui vont jusqu'à l'ivresse. Alors, qu'est-ce que c'est que le saké, vous qui le pratiquez depuis des années en France?
D'abord, le dernier film d'Ozu, qui date de 1963, donc l'année de sa mort. Le titre en français, c'est « Le goût du saké », mais le titre en japonais... Mais c'est pas ça, hein. C'est le Sammano Aji, ce qui veut dire le goût de blaou, donc un poisson de genre sardine, un peu plus grand, qu'on mange notamment en automne, et que ce poisson, comme les sardines, comme les anchois, est considéré comme un poisson des populaires, des plébéiens. Il y a même des lakugo au conte Baliverne classique qui parlent de ça pour dire que les seigneurs, les gens de la noblesse ne connaissent pas ce poisson. Et aussi, il y a un poète qui s'appelle Sato Haruo, qui était un des copains de Tanizaki Junichiro, l'auteur de l'éloge des ombres. D'ailleurs, ils sont échangés les femmes, ce qui faisait scandale en 1930. Et il a fait donc un petit poème de Balaou, en disant que ou le balaou. Et ce qu'il est amer ou salé. Et que le balaou, ce poisson de plébéien, se mange avec le citron vert. Mais ce poète mange avec ses larmes, en pensant donc à la femme, à l'épouse de Tanizaki, à laquelle il pense. Quand on dit samma, donc balaou, pour les Japonais, la première chose un peu culturelle, entre guillemets, c'est ce poème de Sato Haruo. Mais bon, effectivement, dans ce film, comme dans d'autres films d'Ozu, on boit beaucoup. Le saké, effectivement, c'est une boisson nationale. Et les pratiques de saké, c'est vraiment le sport national. Mais comme en France, la place de saké, du vin pour la France, a énormément évolué. Le saké que Ozu buvait devait ressembler à des piquettes. Je suis à peu près convaincu. Et depuis sa mort, depuis justement le début des années 70, la qualité oléganoleptique de saké s'est nettement améliorée. Et le bon saké que, malheureusement, Ozu n'a pas connu.
Le 3 janvier 1959. Boire modérément, ni trop travailler, ni trop faire la sieste. Pense qu'il te reste peu de temps à vivre. On a travaillé dans la matinée et le scénario était terminé à 13h30. Commencé le 30 mars dernier, il nous aura fallu 87 jours pour l'achever. On a fêté le scénario au brandy. J'étais ivre mort.
Il y a un témoignage, je crois que c'est du fils de Satomi, l'écrivain, qui était très ami avec Ozu, qui disait « Mais souvent, Ozu venait manger à la maison, mais il buvait trop, et il s'écroulait, il dormait par terre, mais il dormait devant l'armoire au futon. » Et il était tellement, tellement lourd qu'on n'arrivait pas à le déplacer, on ne pouvait pas sortir le futon pour nous aller dormir. Et donc c'était Ozu buvait essentiellement le soir et la nuit, et aussi, et ça c'est important, il buvait quand il travaillait avec Noda, le scénariste. Ils allaient dans la maison de campagne de Noda, à Tateshina, dans les montagnes, et donc ils travaillaient vraiment très dur, tout le matin, tout l'après-midi, tout le soir, mais il travaillait avec des bouteilles de saké. Il les numérotait. Et il s'était rendu compte qu'au bout de la 20e ou la 30e ou la 40e, là, il commençait à bien travailler. Et qu'en général, un bon film, il était bouclé après 80 ou 90 bouteilles de saké terminées. Et la femme de Nota a gardé ses bouteilles numérotées au marqueur indélébile avec un gros chiffre romain, 1, 2, 3, jusqu'à 90.
30 mars. Soleil. L'alcool m'est interdit. Traitement. 1er avril. Soleil. Pas d'alcool. Et appelé Yoshida pour lui demander de faire une commission. Suis resté couché. 8 avril. 11 heures au centre de soins du cancer, 3e étage. 1er juillet. J'ai quitté l'hôpital. Après 83 jours d'hospitalisation. 16 juillet, fête bouddhique des morts. 27 juillet, mal aux épaules. 14 août, visite de la femme de Ryu Shishu.
Alors, si on tire Ozu vers l'anecdote de sa propre vie, il meurt le jour même de son anniversaire. Et lui, qui était très sourcilleux sur les costumes, le jour de sa mort, il est habillé avec ses habits d'anniversaire.
Oui, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que justement, il se trouve qu'il meurt exactement le jour de son 60e anniversaire. Et en fait, il était déjà hospitalisé. Et ses amis avaient apporté son costume d'anniversaire pour fêter l'anniversaire. Et finalement, voilà, bah, ça lui servira de costume de mort.
La tombe d'Ozu ne porte pas de nom. Seulement un signe chinois ancien, mou, qui signifie le vide, rien.
Les gens ont beaucoup parlé de la tombe d'Ozu parce qu'il y a juste le caractère mou qui veut dire rien, néant. Et c'est vrai que ça a pu aussi justifier des approches un peu culturalistes sur la japonéité du cinéma d'Ozu, le caractère zen ou spirituel ou bouddhiste de... Bon, pour moi, c'est presque une blague, en fait. Ça tombe avec ce rien, ce vide. C'est aussi, voilà... C'est ce vieux garçon qui s'est jamais marié, qui a jamais fondé de famille et qui veut qu'on l'oublie aussi d'une certaine façon après sa mort et qui veut pas laisser un nom de famille.
Basile de Galice, comment expliquez-vous la reconnaissance tardive de Ozu, notamment en France, où il a été précédé par Kurosawa, Mizoguchi, qui sont tous célébrés dans les années 60. Lui, il faut attendre presque la fin des années 70 pour qu'on découvre son œuvre.
Je pense notamment la différence avec Kurosawa. C'est que un Kurosawa, par exemple, qui fait le même usage, voire qui va encore plus loin dans l'utilisation des éléments entre guillemets folkloriques japonais, hein, tout le passé immémorial comme ça, des samouraïs, des ronins, toutes ces histoires comme ça, mais au service d'une vision et d'un rythme beaucoup plus assimilable peut-être par les occidentaux, parce qu'un rythme plus vif, une logique aussi peut-être très directement inspirée voilà, de la tradition du cinéma américain. Donc c'est du western avec des sabres, quoi, le Kurosawa d'une certaine façon. Donc pour différentes raisons, d'autres ont pu être reconnus et peut-être plus facilement digérés d'une certaine façon par les occidentaux, alors qu'Ozu, c'est vrai, il a longtemps conservé son mystère avant qu'on se débarrasse d'une espèce de condescendance bienveillante pour cette espèce de bonhomme soi-disant conservateur et vraiment entrer dans la radicalité, les vrais enjeux de son cinéma.
Studio. Suis allé à Kamakura acheter le tissu de la ceinture de kimono de Sugimura. Plateau de tournage à partir de midi, la maison Okubo, 21 plans. Fin du tournage à 18h. Lecture du scénario avec Nagaoka et Takahashi. Suis rentré en taxi. Storyboard des scènes à tourner demain. La température est douce.
Ozu, le peintre de la condition humaine, avec Jean-Marie Touratier, auteur de « Être humain, Ozu et Tarkovsky », publié chez Galilée. Youssef Ishakpour, auteur de « Forme de l'impermanence, le style de Ozu », publié chez Léo Cher. Basile Deganis, auteur du « Silence dans le cinéma d'Ozu », polyphonie des sens et du sens, publié chez L'Harmattan. Et aussi l'écrivain Marc Potrel, l'historien Emmanuel Lozeran, et l'épicier Toshiro Kuroda, spécialiste du saké. Les extraits des carnets de Ozu, parus aux éditions Alive, étaient dits par Hervé Furic. Une vie, une œuvre. Attaché d'émission, Laurence Jeannepin. Prise de son, Jean-Pierre Pernel et Fabien Gosset. Mixage, Julien Douminc. Réalisation, Jean-Claude Loiseau. Une émission proposée par Michel Pomarède.